Bonjour et bienvenue dans le journal des gens qui ne sont pas majeurs.
Aucun enfant n'a été maltraité dans la création de cette émission.
Aussi, ce podcast ne dure pas 8h30.
Donc, vous n'avez pas besoin d'annuler votre emploi du temps pour nous écouter.
Dans ce podcast, vous allez entendre diverses choses dites par des enfants de divers âges.
Bon, on va pas tout vous raconter.
Mais restez avec nous pour découvrir la suite.
Bonsoir à tous. Trois raisons, trois bonnes raisons, me semble-t-il.
Court sur les côtés, long derrière, non, la coupe mulet immortalisée par les footballeurs et les stars des années 80 n'est pas morte. Elle a même, figurez-vous, son festival.
D'abord, c'est la centième. Ensuite, le sujet de circonstance, l'humour, parce qu'on est plutôt content. Et puis, enfin, l'invité de...
Bon, personne ne leur dit de quoi on parle.
Bah non, laisse-nous suspense, tu vois.
Nous vous souhaitons une
bonne écoute.
Est-ce que tu aimes lire?
Oui, j'aime beaucoup lire.
Et écrire aussi?
Oui, j'aime beaucoup lire et écrire et je pense que ça va ensemble.
Tu lis du coup par plaisir ou pour apprendre?
Bah, je lis pour apprendre par plaisir. Enfin, je prends du plaisir à lire pour apprendre. Et j'apprends en prenant du plaisir à lire.
Quand vous étiez ado, est-ce que vous lisiez plus, beaucoup?
Avant 15 ans, je lisais essentiellement des choses, des sagas un peu. J'ai lu Harry Potter. Je lisais aussi Les Chairs de Poule quand j'étais plus enfant, voilà. Des choses comme ça.
Les livres que je préférais quand j'étais ado, c'était des collections. J'ai toujours une bande d'ados qui faisait des tas de choses. C'était Le Clan des Cinq ou le Club César, tu connais ça.
Dans quel lieu vous aimez lire?
Dans mon salon, dans mon canapé, tranquille, pour pas être dérangé.
À quel moment t'aimes lire?
Quand j'ai du temps, le soir des fois. C'est pas trop tard, et le week-end aussi, et les vacances.
Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît?
Bonjour, je suis Tristan, l'un des deux co-gérants de la librairie Le Grain des Mots, dans Montpellier.
Je suis Lise, je suis libraire au Grain des Mots depuis 3 ans, et je suis responsable, avec Tristan, de la bande dessinée et de l'espace jeunesse ado. Voilà. Mais ça m'empêche pas de lire plein d'autres choses.
Est-ce que vous pouvez nous présenter la librairie?
Oui, donc c'est la librairie Le Grain des Mots à Montpellier au boulevard du Jeu de Pomme. On est une librairie généraliste, donc généraliste ça veut dire qu'on vend dans tous les domaines, donc enfants, adultes, bande dessinée, illustrés, photographie, on a un peu de tout pour que ça puisse satisfaire tout le monde. On est une équipe de 5 personnes dont une apprentie et la librairie a 21 ans. D'existence.
Oh oui, okay.
Voilà.
Oh wow. C'est trop cool.
On fait partie de l'association Initiale, qui est une association qui regroupe des librairies indépendantes à travers la France. Il ne peut pas y avoir plus d'une librairie initiale par ville, donc on est la librairie initiale de Montpellier. Et donc en fait, c'est un groupement où, entre nous, entre libraires, on peut se donner des indications, s'aider, faire bloc aussi quand on est face à des problématiques du système qui pourraient défavoriser les librairies. Là, on est tous ensemble pour pouvoir râler. Et c'est beaucoup plus simple pour se faire entendre quand on est plein.
Le métier de libraire, c'est quoi?
On pourrait être vendeur, vendeuse, mais notre particularité, c'est qu'on vend des livres, donc un produit culturel. Donc on doit avoir une connaissance assez étendue dans notre domaine, plein de curiosité. On est en contact tout le temps avec des gens, donc il faut aimer vraiment parler avec les gens, se renseigner, avoir envie de les comprendre pour savoir qu'est-ce qui pourrait leur plaire dans les livres, autant des plus âgés jusqu'aux enfants. C'est aussi la réception, ranger les livres, les mettre en avant, les choisir, organiser des rencontres avec les auteurs.
C'est le rôle du passeur. Entre les livres qui sont édités, publiés, qui existent, nous, notre rôle, en fait, c'est de faire l'accompagnement, de repérer et de guider les lectrices et lecteurs vers les ouvrages qui vont leur plaire. Il y a tellement de choses, c'est gigantesque. Le nombre d'ouvrages, il faut aider les lecteurs à se repérer dans cet océan, quoi.
Est-ce que vous aimiez lire quand vous étiez jeune?
Eh bien non. Non, parce que j'avais une maman libraire. Déjà, j'ai eu des grosses difficultés scolaires. J'ai vraiment une scolarité subie, plus que pénible, douloureuse, on va dire. Et j'avais une maman libraire qui me harcelait pour que je lise. Et c'est pas toujours la meilleure méthode. Et en fait, c'est venu bien plus tard, où j'ai commencé à lire des choses pour apprendre des choses. J'ai pas lu de la fiction, c'est vraiment par les essais, les documentaires que j'ai découvert le pouvoir des livres. Et ensuite, je me suis ouvert petit à petit à la fiction. Alors d'abord le récit de voyage, les essais politiques, et ensuite la fiction petit à petit. Et voilà, et maintenant, j'embêterai mes enfants pour les faire lire, mais peut-être avec un petit peu plus de tact.
Bon, vous l'aurez compris, dans cette émission, le club ado de la boutique d'écriture de Montpellier part à la rencontre des livres. Lire pour soi, mais aussi lire pour les autres. Lire pour toi, cher auditeur. Des extraits du dernier livre de Mariam Majiti, Pour que je m'aime encore, et qui parle de son adolescence en banlieue parisienne. Voir comment ça résonne pour eux. Et une fois plongé dans le récit, mis en son avec beaucoup d'humour, c'est avec leurs mots qu'ils ont écrit leur « Pour que je m'aime encore » à l'adulte qu'ils seront bientôt. Bonne écoute.
Pour que je me souvienne.
Pour que je me souvienne toujours.
Pour que je me souvienne de ce professeur.
Pour que je puisse combler le blanc d'une feuille vierge.
Pour que je me souvienne de mon chat et ma meilleure amie.
Pour que l'intermittente et l'étudiant en lettres se parlent.
Pour que tu n'oublies pas tous ces beaux débuts.
Pour que tu n'oublies pas la première comme la dernière fois.
Pour que tu n'oublies pas la première comme la dernière fois. Pour toutes les premières fois, qu'elles s'accompagnent de pleurs ou de joie, qu'elles te concernent, toi ou moi. Elles ont peuplé notre enfance, dictant notre voix. D'une jeunesse mesquine et de jeux puérils, les années t'éloignent, car un chemin plus sérieux elles rejoignent. Mais n'oublie point ton premier sourire, tes premiers rires, l'adrénaline que procurent les premiers risques et les émotions les plus insolites. En effet, toutes ces choses-là, qu'elles viennent d'ailleurs ou de là-bas, font partie de toi, alors n'oublie pas. Je suis toi comme tu es moi.
Bien, bonsoir à tous. Merci d'être là ce soir à la boutique d'écriture. Alors, c'est des choses qu'on fait, c'est régulièrement, c'est d'accueillir des auteurs, des autrices, des illustrateurs. Et ce soir, on a le grand plaisir d'accueillir Mariam Majidi. Pour que je m'aime encore. Là, c'est l'adolescence, en fait.
Le titre, Pour que je m'aime encore, c'est une référence à Céline Dion. Parce qu'il y a un passage, en fait, dans le livre. Et donc, alors, je vous lis le passage. C'était une belle nuit claire de juillet. J'avais passé la soirée à pique-niquer sur les quais de Seine à Saint-Michel. Je suis rentrée avec le noctambus. En descendant au rond-point des six routes, une musique très forte résonnait dans l'espace. J'ai vu quatre jeunes de cité, de beaux lascars, assis dans une voiture aux portières et aux fenêtres ouvertes, en train de fumer des pétards. Ils avaient une trentaine d'années et des gueules de dur. Ils écoutaient les yeux fermés Céline Dion, Pour que tu m'aimes encore. J'ai compris tous les mots. J'ai bien compris, merci. Raisonnable et nouveau, c'est ainsi par ici que les choses ont changé, que les fleurs ont fané, que le temps d'avant, c'était le temps d'avant. Que si tout zappe et lasse, les amours aussi passent. Donc j'avais trouvé cette scène surréaliste. C'est-à-dire que, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ils écoutent Céline Dion, comme ça avec les pétards. Je me suis dit, en fait, c'est des gros...
Les yeux fermés.
Les yeux fermés à fond. Je me suis dit, en fait, c'est des gros tendres, là, derrière leur carapace de dur. Elle est là aussi, la réalité de ces mecs-là, comme ça, qui se la jouent. Et donc, je disais à mon éditeur, voilà, il y a un truc à tirer de ça. Et donc, je dis, on n'a qu'à mettre, Pour que tu m'aimes encore. Il dit, mais non, on va avoir plein de problèmes, le truc, il est déjà pris. Il me dit, Pour que je m'aime encore. Et en fait, on fait cette variation. Et on trouvait que finalement, ça allait bien avec ce livre, parce qu'il y a un peu le livre d'une réconciliation aussi.
Complètement, ouais.
C'est-à-dire, le livre commence, mon double, quoi. C'est un peu mon double littéraire. Déteste son corps, c'est trop poilu, il y a un mono-sourcil, il y a une moustache. Faut rendre tout ça un peu européen, occidentalisé. elle veut ressembler à une Brenda américaine, quoi. Et donc, il y a ce refus-là, il y a le refus de sa culture, de sa classe sociale. Enfin, c'est un certain nombre de refus qui finissent comme ça par un peu s'estomper, et voilà. Donc, c'est pour que je m'aime encore, finalement, le... Voilà, c'est tout ce qu'il faut pour que je m'aime encore, quoi. Il y a un truc comme ça, toutes les réconciliations qu'il faut pour s'accepter soi-même.
Les ados de, du club ado de la boutique d'écriture fait tout un travail sur, bah, sur la lecture en général, mais après en se centrant plus sur ce, cet ouvrage-là, où ils se sont emparés de certains extraits et bah, ils les ont lus et les, on les a enregistrés. Donc on avait envie de partager avec toi bah, les
ah bah, sur les plaisir, profs, super.
La, la vision des profs. Parce que dans les profs, il y a les vainqueurs.
Il y a les vaincus et il y a les vaincus devenus fous.
Madame Châtelain avait su garder toute l'élégance et l'orgueil de sa gloire passée. Notre prof de musique était une guerrière vaincue, mais qui n'avait rien perdu de sa superbe. Cette très belle femme d'une cinquantaine d'années venait en Mercedes rouge au collège. Elle portait le noir, le rouge et le jaune à merveille. Ses tailleurs coupés à la perfection épousaient sa silhouette altière. Ses boucles d'oreilles lourdes et généreuses pendait à ses lobes allongés par le poids de ses bijoux. Et chaque fois qu'elle tournait la tête ou que sa main passait dans ses cheveux auburn, elle émettait un léger tintement, comme le son cristallin et aigu d'un triangle musical. Ses talons aiguilles scandaient le rythme de ses pas et ses mains frappaient la cadence de la partition que nous apprenions. Elle nous enseignait la musique classique et uniquement le classique. Elle adulait Bach, qu'elle prononçait à l'allemande en appuyant bien sur le ch.
Bach!
Et Beethoven, qu'elle prononçait aussi à l'allemande en disant
Beethoven!
Toute l'année, nous faisions de la flûte. Il nous a fallu 6 mois pour apprendre le début de l'hymne La Joie. Nous n'avions aucune notion de musique, nos doigts ressemblaient à des grosses pattes d'éléphant, on se trompait de trous, on ne commençait jamais en même temps. Nos flûtes étaient trempées à force de souffler en crachant dedans. Des gouttes s'échappaient par les trous. Chacun était concentré sur son petit son à émettre sans écouter le reste du groupe. Au milieu de cette cacophonie, Madame Châtelain circulait, l'air impassible et les yeux mi-clos. Elle comptait la mesure ou chantait les premières notes de l'hymne à la joie.
Si, do, ré, ré, la, si, do, sol, la, si, si, la, la.
Comme elle ne nous interrompait pas, c'était pour nous un signe d'encouragement. Et nous continuions de plus belle notre symphonie discordante et criarde à s'en faire péter les tympans.
Impassible et imperturbable, une craie à la main, notre prof de mathématiques, Monsieur Létard, nous expliquait sur le moindre enthousiasme les lois de l'algèbre et de la géométrie. Homme d'une cinquantaine d'années, il était un guerrier vaincu qui avait la particularité de toujours porter des chemises bleues et des pantalons marrons.
Quand les deux grands nombres sont proches l'un de l'autre, on peut utiliser l'axe des nombres et transformer la soustraction en addition.
La grande question que l'on se posait en cours de maths ne portait pas sur le théorème de Pythagore ou les fractions, non. On se fichait éperdument de ce qu'il nous enseignait. La question qui nous hantait était de savoir si Monsieur Létard a eu plusieurs chemises et pantalons identiques, ou bien s'il portait la même chemise et le même pantalon toute la semaine. C'était d'une importance capitale pour nous. Dans le premier cas, cela pouvait être défendable et attribuable à une monomanie vestimentaire digne des grands génies. Dans le second cas, cela remettait en question son hygiène et sous-entendait qu'il était franchement crade, pingre et inquiétant.
Nous avons mis au point un plan très simple et futé pour obtenir la réponse à cette question.
Obsédante.
Si le lendemain et les jours qui suivaient, la chemise qu'il portait avait cette marque distinctive, c'est qu'il s'agissait de la même chemise. J'étais désignée pour le faire. J'étais la seule élève, avec Paola, à avoir 16 de moyenne en maths.
Je me sentais les épaules.
Pour réaliser ce défi,
j'étais protégée par ma moyenne, donc insoupçonnable. Je devais agir quand, écrivant au tableau, il aurait le dos tourné à la classe. J'ai levé le doigt pour aller tailler mon crayon à la poubelle.
La poubelle est près du bureau.
J'avais le marqueur noir dans ma poche. Je taillais lentement. Il s'est retourné pour dessiner un triangle rectangulaire. j'avais le cœur qui battait fort.
Toutoum, toutoum, toutoum.
J'ai pris le marqueur. J'ai tendu le bras. Et très légèrement.
Surtout ne pas émettre de pression.
J'ai dessiné à mon tour un très beau trait noir fin, aérien, sur le tissu bleu délavé de sa chemise.
Tous les élèves ont applaudi. Le prof s'est retourné vers moi.
Chut !
J'ai juste le temps de remettre le marqueur dans ma poche et de regagner ma chaise. Je me sentais terriblement fière d'avoir réussi cet exploit.
Le lendemain, Monsieur Létard est arrivé dans la classe et a posé son cartable sur le bureau pour sortir ses affaires. Il a attendu que le calme se fasse. Il a pris sa craie. Il s'est tourné pour écrire une date au tableau. Et sa chemise était marquée de mon trait noir.
Les deux jours suivants également.
Je traînais avec les durs, les lascars, les fouteurs de bordel, les cancres, toujours assis au dernier rang et qui avaient l'art de vanner et de faire rire. Il y avait en eux un humour lucide et désespéré et une marginalité qui se moquait de l'autorité.
Dorian, taisez-vous, sinon vous aurez une heure de colle.
Je les admirais pour ça. J'étais une excellente élève, pas une faillotte. C'est pourquoi mes copies circulaient à tous les devoirs sur table. Je leur filais aussi mes devoirs à la maison, pour qu'ils puissent les recopier la veille, de la date où il fallait les rendre. Je n'avais aucun problème à leur donner les réponses. Le savoir ne m'appartenait pas. Les notes n'étaient qu'un moyen de constituer un bon dossier et d'accéder à un ailleurs, situé de l'autre côté du périphérique. J'étais une Robin des Bois de la scolarité. Une communiste du savoir. Je le partageais, les redistribuais à celles et ceux qui en avaient besoin.
Marco, c'est quoi la réponse à la question 3? Attends deux secondes, je te montre la réponse. Vas-y, passe ta feuille. Attends, il y a le prof. Chut,
prenez, c'est gratuit. Et ça peut faire remonter votre moyenne, tant mieux.
Les profs, évidemment, s'en rendaient compte. Et alors, nous étions collés. Une heure de plus dans le collège à rendre fous les surveillants, ce n'était rien pour moi.
Chut, on ramène le silence. Ah, stop, s'il vous plaît.
Non, là, il y a trop de bruit.
J'étais aussi une experte de la triche. Lorsque la matière ne m'intéressait pas, je développais des talents de grugeuse. Récolter une bonne note en refusant de se soumettre à une matière qui n'avait aucun sens, c'était logique. Je trichais allègrement en mathématiques, en technologie, en physique-chimie. J'ai toujours détesté ces matières, où il était hors de question que j'apprenne docilement des leçons dénuées d'intérêt. Mes antisèches circulaient aussi dans la classe.
Vas-y, donne ta feuille.
Petit papier enroulé dans le capuchon d'un stylo, règle derrière laquelle figurait le tableau des éléments en chimie, large bracelet avec la leçon de maths écrite à l'intérieur. Je passais finalement plus de temps à élaborer des techniques de triche qu'à apprendre la leçon en question.
Super.
Voilà, du coup ils ont fait
merci.
Ils sont emparés
on
de...
sent qu'ils se sont amusés quoi à le faire, ça se sent. Ouais.
Et maintenant, place aux écrits des jeunes.
Pour que je me souvienne de ce professeur. Salut Anis. Tu as aujourd'hui 78 ans. Et tu es sûrement en EHPAD. À la fin de ta vie. T'as vécu longuement. Et je voudrais que tu te souviennes de monsieur. Parce que tu commences un peu à perdre la mémoire. Et ce professeur en quatrième, qui t'enseignait la physique-chimie. J'aimerais que tu t'en souviennes quand même. Que tu te souviennes de sa calvitie rayonnante. En classe, ce professeur était d'une impolitesse flagrante. Ses cours étaient très ennuyeux. Et la classe dans son ensemble ne l'aimait pas beaucoup. Ce professeur insultait les élèves. À cet âge-là, c'est-à-dire à 13 ans, je voyais mes professeurs comme des personnes qui parlaient pendant des heures en nous disant de nous taire. En classe, j'étais un élève normal. Studieux, mais pas trop. Ce qui m'intéressait le plus, c'était la SVT. Les leçons sur le corps humain. Le rallye Bombix. Un concours de maths. La cantine parce qu'on y mangeait bien. Et de retrouver mes amis. Avec qui on se moquait de M. Deux crasses dont je me souviens. On lui avait offert une rose pour la Saint-Valentin qu'il a léchée après avoir mis dans son oreille.
Et pour un 1er avril aussi, on lui avait écrit un mot en le décrivant avec des grosses oreilles et un crâne luisant. C'est vrai que son crâne reflétait bien la lumière. J'espère, Anis, qu'à 78 ans, tu n'auras pas la même calvitie. Porte-toi bien. Je te dis pas à bientôt.
Pour que tu n'oublies pas, tout c'est beau au début. Bonjour, mois de plus tard. J'aimerais te demander de ne pas oublier ce que tu as accompli durant tes débuts de vie. Je veux que tu te rappelles du premier jour où tu as commencé l'équitation, car ce fut l'un des plus beaux jours de ta vie. Ça a été le début d'une longue période que j'espère ne s'aboutira jamais. J'aimerais que tu te souviennes aussi de toutes tes disputes pour ne pas refaire les mêmes erreurs, mais aussi de toutes tes réussites pour te rappeler que tu n'es pas nulle. J'espère que tu auras plus confiance en toi, car tu es forte. Ne te laisse pas rabaisser par les autres. Rappelle-toi aussi de tous ces moments avec tes amis, car ils ont toujours été là pour toi. Même dans tes plus bas moments. Et pour finir, le plus important, ne deviens pas une mauvaise personne. C'est-à-dire, reste proche de ta famille, ne deviens pas raciste, ne deviens pas violente, etc. Bref, tout ça pour te dire que j'ai hâte de te rencontrer et de voir quelle personne tu seras devenue. Merci d'avoir lu cela et à bientôt.
Pour que je me souvienne toujours. Je veux toujours avoir le permis. Je veux avoir un permis et une voiture. Comme ça, je ramène toute ma famille dans la voiture. Comme ça, je peux aller au Maroc, en Espagne, en Italie. Je peux visiter tous les pays avec ma voiture.
J'ai besoin d'une voiture.
Une Golf A7 ou une Clio.
Dans l'autre sens. Dans l'autre sens.
J'aurai un travail à Paris.
Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine. Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. Il est 5 heures, Paris s'éveille.
Je vais visiter toute la France.
Mon rêve, c'est d'aller à New York.
J'irai avec mes amis. J'ai envie d'avoir 18 ans
pour conduire ma voiture, pour la garer devant le collège, pour entendre la sonnerie dans ma tête. J'aurais préféré être prof. Mais en fait, j'ai changé d'avis.
Pour travailler en CESDA, pour travailler pour les autres. J'ai envie d'avoir une maison seule.
Une piscine! J'ai jamais ramené mes amis pour faire une fête.
J'ai envie de prendre un globe, le faire tourner,
pointer du doigt un pays. Je suis beaucoup allée au Maroc. J'aimerais changer.
Il faut que je parle bien, bien anglais.
Même au Maroc? Même si je parle pas bien arabe, je parle anglais. La seule autre possibilité, c'est anglais.
Ils ont appelé
un quiz pour en finir.
Est-ce que je préfère
pointer du doigt un globe ou prendre un train pour Paris?
C'est quoi ma voiture préférée?
J'en ai deux.
C'est quoi mon pays que j'aime trop?
Mon rêve. À part toute maison, est-ce que je m'ennuie ou je fais la fête
avec mes amis?
Bravo, si t'as bien trouvé, je te donne 5 étoiles.
Pour que l'intermittente et l'étudiant en lettres se parlent. Coucou moi, je sais que j'écris pas dans le grimoire, mais on a qu'à faire comme si. Comme si tu lisais ce que j'écris au moment où je l'écris, et comme si ce texte allait pas être oublié au fin fond des archives de la boutique, et au fin fond du fouillis de ma tête, ou peut-être celui de mon cœur. Le cœur est un organe vital, qui pompe du sang dans tout le reste du corps, mais ma tête, elle est au chômage. Bien tranquille dans son liquide, mon cerveau est en paix, Mon cœur, lui, tryhard comme un fou, plutôt comme un intellectuel de 24 ans en fac de lettres. Mon cœur n'a pas de thèse, mais il a son bac. Mon cœur n'est pas sûr. Après la fac, que veut-il faire? À l'université, on n'a plus de conseillère d'orientation. Il n'a pas réfléchi en choisissant ses spé. Il ne voulait pas être médecin, et il ne veut toujours pas être médecin. Mais l'impossibilité l'ennuie. Ce n'est pas qu'il n'aime pas les lettres, mais il veut tout faire en même temps et l'un après l'autre. Ma tête, elle, est au chômage. Ce n'est pas elle qui me contrôle. Elle n'a pas eu son bac et maintenant elle est poète. Elle essaye de se faire publier. À 24 ans, sans le bac, c'est compliqué. Elle n'est pas vraiment au chômage, dit-elle, elle est intermittente. Ça doit être le déni. Elle joue dans des pièces, elle s'échappe, elle transmet, parle, crie, hurle, se déchire, pleure, elle sait. Elle est. Mon cœur, lui, ne sait pas. Il a eu son bac, mais il voulait une grande vie. Pas une vie de prof de français dans une secpa. Il voulait lui aussi pleurer, hurler, savoir, mais il ne sait pas. Il étudie les pièces, alors que elle, elle les joue. On dit souvent que le cœur est libre, tandis que la tête est prisonnière de sa logique, mais pas chez moi. L'intermittente joue et l'étudiant lit. Ni l'un ni l'autre n'est libre ou prisonnier, ils concordent parfaitement. Le poète et le lecteur. Ne pense pas que j'ignore que tu me connais bien, très bien. J'espère que tu me détestes pas. J'espère que l'intermittente se fait publier et que l'étudiant a eu un poste où il s'éclate. J'espère qu'ils ne se disputent pas trop. J'espère que tu penseras à moi quand l'intermittente sera grande poète et quand l'étudiant enseignera à la Sorbonne. Je sais qu'ils le feront. Voilà ma description pour que tu ne m'oublies pas. Pour te rappeler et pour que je ne disparaisse pas dans les archives de la boutique. Pour me parler, pour te parler. Pour que l'intermittente et l'étudiant se parlent. Pour qu'ils se rassurent. Pour que le CD de ma vie ne se raye pas à cause de la poussière. Pour que l'usine de mes pensées ne ferme pas à cause du coût de la main d'œuvre. Pour que je te parle, pour que je m'aime encore.
Salut Ryan. Je vais bien. Je sais pas quoi te dire. Tu es grand, mais plus vieux. Tu es coiffeur. J'ai vu sur l'ordi avec le prof. Il m'a dit que je serais coiffeur. Ça me plaît. C'est drôle. Je sais pas encore comment faire pour être coiffeur. Mais j'ai envie. Je prends une tondeuse. Je coupe les cheveux. Je prends les ciseaux. Le shampoing. La crème pour le visage. T'as vu? Je m'y connais bien.
Dernier retour au texte de Mariam Majidi, extrait de son dernier livre, Pour que je m'aime encore.
Je livrais à mes cheveux une bataille. Gilead dans les travailleurs de la mer. Contre le vent, la houle, la pieuvre. Je luttais contre les mèches, la touffe, les frisottis. J'étais une Gilead de la chevelure. Je m'armais du sèche-cheveux. Et je tirais sur la brosse pour raidir chaque touffe de cheveux, mais chaque boucle frisée résistait à la chaleur brûlante. Ne voulait pas se soumettre, s'échappait des griffes de la brosse et je finissais le plus souvent en nage, éreintée. Je me regardais dans le miroir, derrière l'apparente chevelure raidie, aplanie, apprivoisée. On devinait la salade frisée qui me riait au nez. J'avais une peur terrible de l'humidité. Les jours qui suivaient mon brushing, une petite bruine à peine et tout était foutu.
Boing.
Je me promenais toujours avec un chapeau, un béret, un machin sur la tête comme bouclier à mes frisottis.
Oh non, ça va friser.
La nuit, je mettais des barrettes, des épingles, des pinces, des élastiques à des endroits stratégiques de ma tête pour que levées, les mèches les plus rebelles de ma tête soient domptées. Je faisais cela en cachette, je ne voulais pas qu'on se moque de moi. C'était un rituel au moment du coucher. Il me fallait être attentive et concentrée.
Où placer cette barrette et cette épingle? Et cette épingle? Comment être efficace? Pour que la frange de devant soit toute plate le lendemain matin.
Oh, allez! Pourquoi tu marches pas? Allez! Allez!
Je me réveillais parfois de douleur quand une barrette s'était enfoncée dans la peau, dans mon crâne. Pendant mon sommeil.
Je me précipitais au lever pour aller dans la salle de bain me regarder. J'enlevais un par un cet attirail, impatiente de découvrir la récompense de tant de souffrances nocturnes. Et là, dans le miroir, la dernière barrette enlevée, je ressemblais à un Playmobil.
Playmobil,
En avant les histoires.
C'était une torture que je m'infligeais volontairement. Pourquoi ? J'avais 13 ans et je voulais ressembler à Brenda dans la série Beverly Hills. Je ne voulais pas que cette chevelure de métèque trahisse mes origines lointaines. Je voulais polir, lisser, raboter les bosses, les apprêter. La rugosité de l'étrangère dont ses cheveux étaient la parfaite incarnation.
C'est quoi votre livre préféré ?
Oh, ça va peut-être paraître bizarre, c'est Saint-Exupéry, le petit prince.
C'est un livre un peu compliqué, c'est l'éthique de Spinoza.
Ouf, mon livre préféré, il change tout le temps.
Pourquoi vous lisez ?
Pour me distraire, pour m'instruire, pour voyager.
Mon livre préféré, c'est Orlando de Virginia Woolf et en général tous ces livres d'elle.
Dans quel lieu vous aimez lire ?
Surtout dans mon lit.
Dans les cafés aussi.
Vous lisez pour les loisirs ou pour apprendre ?
Surtout pour les loisirs parce que comme je suis étudiante, je dois normalement lire beaucoup pour apprendre. Alors lire de la fiction, c'est comme un loisir pour moi.
Je pioche dans les livres, ce sont des supports de recherche. Je peux autant prendre des livres sur le jardinage que sur l'art contemporain parce que je fais du cinéma. Et donc du coup, j'utilise un champ large de lecture.
J'aime beaucoup les livres, c'est important. Je passe en moyenne de toute ma vie, même quand je travaillais, j'ai passé 3 heures par jour à lire.
Vous avez un conseil pour nous ?
Eh bien, ça m'arrive de parler aux jeunes sur la lecture et je leur dis qu'il ne faut surtout pas se focaliser sur la question de commencer un livre et de le finir absolument. Qu'un livre, c'est un livre pour toute la vie et qu'en fait, on peut piocher dedans. C'est un peu ma manière de faire. Et on n'arrive pas à comprendre le début d'un livre et puis on le met de côté. Et puis, au bout de 3 ans, on le reprend et là, on comprend ce qui est écrit dessus. Et finalement, il faut aussi prendre le livre pas comme quelque chose dans son entièreté, mais aussi dans ce qu'il peut nous apporter au cours de la vie.
Pourquoi est-ce que vous lisez ?
Cette émission a été réalisée par Rosa, Irène, Axel, Fatima, Mohamed, Fiorella, Safwan, Ryan, Laura, Margot, Colline, Amantina et Anis. Encadrée par Manon de l'association Wakadi et Aude et Camille de la boutique d'écriture de Montpellier.
Si tu te tais quand on te demande rien, qu'est-ce que tu diras quand on demandera de te taire ?
Si on te dit, si on a quelque chose à dire.